Alors, donc, la deuxième communication est de Niall Green, de UCLA, de Los Angeles. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'océan Indien, sur l'islam, notamment dans les derniers temps, un livre qui s'appelle « Bombay Islam », portant sur le rapport entre Bombay et l'océan Indien occidental au 19e, 20e siècle. Il a aussi écrit un ouvrage général sur l'histoire du soufisme à l'échelle globale et je pense que le dernier ouvrage qui va sortir d'ici peu, c'est sur, ça s'appelle « Terrain d'échange », « Terrains of Exchange », sur l'islam et comme point de rencontre en passant des États-Unis au Japon à un certain nombre d'autres endroits. Alors, le titre, comme c'est annoncé ici sur le programme, c'est donc en anglais. Mais il va faire l'effort donc, de nous parler en français sur Khorasan dans l'océan Indien, dynamique d'espace et de rituel de l'Asie intérieure à l'Inde et à l'Afrique. Donc 40 minutes à peu près.
Tout d'abord, je veux remercier professeur Subramanian pour l'invitation. C'est vraiment un grand honneur d'être ici au Collège de France. Alors aujourd'hui, je vais traiter les liens entre deux zones de la circulation culturelle, entre deux zones culturelles, deux zones de circulation qui sont normalement conçues comme zones séparées et à part. Je parle de l'Asie centrale et le thème de notre colloque aujourd'hui, l'océan Indien. Et l'océan Indien est normalement conçu pour les réseaux commerciaux, mais aussi parce que le thème de notre colloque est aussi la question des croyances. Je vais traiter les croyances ou plus précisément les rituels. Je vais suivre la diffusion d'un rituel de l'Asie centrale jusqu'en Inde, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est. Et je vais montrer que ce n'est pas seulement un rituel qui est déplacé, mais c'est aussi un espace, une forme d'espace. Ici, je prends mon inspiration de les écrits de Michel de Certeau, surtout son livre L'invention du quotidien. Monsieur de Certeau a fait la distinction entre un lieu et un espace. Pour Monsieur de Certeau, un lieu, c'est le domaine de la stabilité, le domaine de la nature. Par contre, un espace, c'est conçu comme, pour lui, le domaine de la culture et de la mobilité. Il a écrit, je le cite, l'espace est un lieu pratiqué. Et là, aujourd'hui, je veux prendre cette question d'un espace et sa pratique propre et je veux le suivre par sa distribution de l'Asie centrale jusqu'en l'océan Indien. Et là, je veux poser cette question de la relation entre ces deux zones, normalement conçues séparées, l'Asie centrale et l'océan Indien. Pendant les derniers 15 siècles, nous avons les recherches de Claude Markowitz et aussi de Scott Levy qui ont démontré les connexions entre l'Inde et l'Asie centrale, les connexions, les liens commerciaux. Mais je crois que la question de les liens entre l'océan Indien et l'Asie centrale, c'est un peu plus compliqué. Mais quand même, quand on suit les produits, les denrées, c'est clair qu'il y a les liens mondiaux entre l'Asie centrale et même la mer des Antilles. Par exemple, nous pouvons voir ici dans la carte la distribution du piment rouge du Mexique, de la mer des Antilles jusqu'en l'Asie centrale et enfin en Inde. Et c'est intéressant que en Népal et aussi en Cachemire, le mot pour le piment rouge, c'est Khorsani. Et Khorsani, c'est le mot dans la langue pour le piment rouge, mais d'origine, c'est le mot pour les marchands de l'Asie centrale et les marchands Khorasani qui ont amené le piment rouge de la Perse jusqu'en Asie centrale et jusqu'en Inde. Et alors ici nous voyons un exemple de ce que les philologues allemands pendant le 19e siècle sont appelés le Van der Wort, c'est-à-dire un mot qui voyage avec une chose, avec une denrée dans ce cas. Il y a beaucoup d'exemples de ce phonème, ce phénomène dans l'Asie centrale plus généralement. Par exemple, avec les historiens de la nourriture, ont démontré que les noix, probablement venues de la Chine ou de l'Asie centrale, ont aussi été distribuées dans l'Asie centrale par ces mêmes formes. Par exemple, nous avons le mot en les langues de l'Asie du Sud-Est, laksa, le nom normalement pour les noix, mais laksa était originalement un mot persan, larcha, qui veut dire glissante, c'est-à-dire parce que les noix étaient normalement mangées dans un bouillon. Et alors nous avons quelques exemples de ces van de voort, les mots qui voyagent avec les choses. Mais quand même, avec la question des marchands, avec la question de la circulation commerciale, c'est aussi possible de démontrer la distribution des produits de l'océan lui-même en Asie centrale. L'exemple le plus célèbre, c'est l'exemple des coquillages kauri. J'utilise ici la recherche de Bin Yang. Et les kauri, les coquillages kauri, qui sont venus bien sûr des îles Maldives, étaient distribués dans la longue durée en Chine et en Asie centrale. Et même jusque la première moitié du 19e siècle, ils étaient utilisés comme une forme de monnaie dans le Cachemire, c'est-à-dire le grand carrefour entre l'Asie centrale et l'Inde. Mais avec la question de la circulation des peuples, je crois que c'est un peu plus compliqué. Nous avons, je crois, en général, deux zones de circulation des esclaves. Une zone de la circulation des esclaves africains dans l'océan Indien et une zone assez séparée de la circulation des esclaves turcs et parfois indiens dans l'Asie centrale. Parfois, bien sûr, on peut voir, par exemple, dans les miniatures timérides, quelques images des esclaves africains qui étaient dans les domaines des Timorides, en Khorasan, en Asie centrale, mais je crois que ce n'est pas si commun. Et alors, en général, on peut dire que nous avons deux zones de commerce, de circulation qui sont parfois reliées, mais néanmoins, ils ont généralement à part. Et alors, je veux maintenant demander si la religion, le domaine des croyances et surtout de la pratique nous donne quelques autres perspectives. Mais quand même, nous voyons ici maintenant une apparence de la séparation. Avec les écoles de la loi musulmane, par exemple, nous avons aussi deux zones assez séparées. Une zone hanafite dans l'Asie centrale et en Inde, et une zone shafi'i dans l'Inde océane et ses côtes. Encore avec les ordres soufis, nous voyons aussi une image de la séparation aussi. Les ordres soufis du Naqshbandi, qui étaient plus forts dans l'Asie centrale, enfin en Inde, et depuis le 18e siècle dans le monde de l'océan Indien. Et normalement dans l'océan Indien, nous avons l'apparence des ordres soufis de l'Ekadri. Et alors, Ici, nous avons aussi une séparation des autres soufis avec zone de circulation. C'est un peu plus facile de voir des liens entre les deux zones avec la question de la culture matérielle. Ici, nous voyons quelques images de les sébiles soufis, les sébiles, les kashkuls soufis, qui sont eux-mêmes les produits de la mer. Ils sont les cocos de mer qui viennent de les îles Seychelles, qui étaient amenés par les vagues de l'océan jusqu'à les côtes de l'Inde et même du Moyen-Orient. Et alors, ce coco de mer, ces sébiles sont un indice que des chamans du soufi nous directer vers autre forme d'échange pendant la longue durée. Et alors, je veux suivre quelques voyages d'individuels soufis, et alors que l'exportation et la diffusion de formes rituelles qui démontrent le déplacement aussi de formes d'architecture et la récréation aussi de l'espace en Outre-mer. Et alors, je veux suivre la distribution de ce rituel se pratique dans les termes de cette eau, la distribution de le rituel de l'ours. Et alors, c'est pas, comme M. Subroin a dit, c'est pas la religion, mais quand même, c'est la pratique. Je dois définir l'ours. Pour ceux qui comprennent l'arabe, c'est les trois lettres arabes Ayn Resin, ours. Et cela veut dire le mariage, plus précisément le mariage du marié, pas de la mariée, c'est-à-dire l'aspect masculin du mariage. Et dans ce milieu soufi, ce milieu rituel, le mot ours veut dire la célébration du mort d'un maître soufi dans le guise d'un mariage. C'est fêté chaque année sur la date de son décès et c'est fêté dans un espace ou son espace propre, son espace particulier, le mausolée ou de même la tombe de la maître soufi. Et je dis que c'est fêté comme dans la forme de mariage parce qu'il a la musique du sama, il a la poésie et les chansons d'amour, un grand repas, la danse, les vêtements de mariage, les parfums, et aussi le symbolisme érotique du mariage et de la mort. Et c'est quel type de mariage? C'est conçu comme la réunion du soufi avec son ami divin, c'est-à-dire Allah. Et c'est vraiment, c'est quel sens populaire? C'est de même, c'est populaire dans le sens de les peuples, de le nombre des peuples qui célèbrent, qui fêtent ce rituel chaque année. Il y a dans l'Asie du Sud, probablement, j'estime, 2000 fêtes de l'ours qui sont fêtées chaque année. Et si je prends seulement l'exemple de le ours de Muinuddin Chishti dans le village d'Ajmer, au nord de l'Inde, il y avait en 2007 700 000 pèlerins qui ont visité le mausolée pendant la semaine de l'ours. 700 000. Et l'ours, c'est très, très populaire. Mais quand même, je veux traiter l'ours comme une problématique. Si nous voulons chercher les liens interrégionaux, il fait problématiser quelques conceptions académiques. Parce que l'ours est normalement conçu par les spécialistes, surtout par les anthropologues et les spécialistes sur les études religieuses, comme une expression de l'islam local. Nous voyons ici l'influence du modèle de Area Studies et aussi l'influence de Clifford Geertz et de Robert Redfield, et la conception, comme je dis, de l'islam local. Jusqu'à un certain point, c'est correct. L'islam, le ours est fêté dans un lieu particulier, dans un espace particulier, le mausolée. Mais c'est aussi une fausse perspective. Parce que chaque mausolée se trouve dans un réseau d'autres lieux de pèlerinage qui suivent les arbres généalogiques de les autres soufis. Par exemple, les pèlerins, ils savent bien que le maître qui est enterré dans une tombe ici était l'adepte de notre maître qui est enterré dans un autre espace, et lui-même était aussi l'adepte de notre maître qui est enterré plus loin. Et alors, ce n'est pas un islam local qu'un islam translocal. L'autre problématique, c'est la conception que le ours représente l'islam indien. C'est souvent décrit comme une expression, comme l'islam indien dans le sens qu'il a toutes les couleurs du sous-continent, toutes les odeurs, toutes les nourritures, les repas du sous-continent. Et nous voyons ici dans cette affiche le ours de Danish Ali Shah dans le Gujarat ou le Bombay. Et quand même, ici, nous pouvons voir cette conception de les couleurs du sous-continent. Et aussi, jusqu'à un certain point, c'est correct. Mais c'est aussi faux, parce que l'ours représente une strate ou une couche Khorasani en Inde. On peut dire même que c'est un fossile d'une culture qui est disparue dans sa pays natale en Asie centrale. Il faut aussi s'adresser à la question de l'idéologie en fermant les horizons de l'ours et son histoire. Parce que l'ours était aussi souvent conceptualisé comme l'expression de l'unité des hindous, des hindous et des musulmans en Inde. se fêter dans ce sens par les intellectuels de la gauche indienne. Et même que moi-même, je sympathise avec cette perspective, comme historien, je dois le problématiser et enfin le rejeter, parce que, encore, ce n'est pas vraiment un exemple d'un islam national, même qu'un islam transnational. Alors, ce que nous avons avec le Urs, c'est une forme d'islam particulier qui a été développée dans un lieu, dans un contexte très spécifique, un contexte en Asie centrale. C'est un islam érotique, on peut dire, avec la danse, la musique, les chansons d'amour, même les danseuses, même les prostituées, enfin en Inde. Et pour cette raison, c'était souvent attaqué par les réformateurs de la modernité, parfois avec violence Pakistan actuel. Et la problématique de l'Urs et son histoire, ce n'est pas seulement une problématique académique, parce que c'est fêté par millions chaque année, mais c'est aussi critiqué et attaqué. Et alors, je vais poser la question d'où vient l'Urs et comment était-il diffusé dans le plus grand monde de l'océan Indien. Mes recherches ont indiqué que ses origines se trouvent en Khorasan, et c'est indiqué ici sur la carte à la droite. Pendant le Xe et le XIe siècle, le Khorasan a subi une renaissance culturelle. C'est bien connu par les spécialistes. Pendant la dynastie des Samanides de Bukhara, avec les petits corps des aristocrates persans, les décans de Khorasan, il y avait beaucoup de patronage, de la musique, de la poésie, et surtout de la poésie d'amour qui est développée en persan pour la première fois. C'était la première renaissance de la langue, on peut dire la culture persane, après les conquêtes arabes du 7e siècle. Et les décans, les aristocrates et la dynastie des Samanides ont soutenu des soirées avec la musique, avec la musique des doutas et de seta le tabla, après les instruments classiques de la musique classique de l'Inde du Nord, et avec la poésie chantée. Et ces soirées sont appelées les majlis. Et ces formes d'une culture originalement laïque étaient adaptées par les soufis pour leur propre soirée, aussi dit majlis. Ils ont adapté surtout la notion de l'ivresse et les chansons d'amour et du vin, et la notion de l'ivresse comme une expression de l'extase spirituelle et tout le symbolisme érotique de l'Urs. Et ils ont adapté ce culture de la musique et de la poésie dans un espace particulier, l'espace des mausolées des maîtres soufis. Et j'ai visité tous les lieux que je vais discuter aujourd'hui. Parce que le Khorasan est aussi un des deux berceaux du soufisme. L'autre était Bagdad, plus célèbre pour ses œuvres plus intellectuelles, théorétiques et écrites en arabe. Khorasan, par contre, était célèbre pour sa célébration de l'extase, de l'utilisation de la poésie et de la langue persane. Nous avons ici la tombe d'Abu Yazid à Bistam, en Khorasan, en Iran contemporain. Et Abu Yazid était conçu comme le héros, le prototype du soufi khorasani. Nous avons beaucoup d'exemples de ce mausolée qui a été développé pendant le 11e, le 12e siècle en Khorasan. Et ils étaient développés comme espace rituel qui était déplacé, je veux démontrer, qui était déplacé avec le Urs pendant sa distribution dans le monde océan jusqu'en Afrique. Et alors, cet espace, dans la formule de M. de Certeau, était espace pratiqué. Et encore espace mobile. Les premiers témoignages que j'ai trouvés pour l'histoire de l'Urs étaient en Khorasan et aussi en Fars. Nous avons les secrets de l'unité divine, l'Asra Tawhid, c'est la biographie d'Abu Saïd ibn Abi al-Khair de Mayhana, indiquée sur la carte. C'est indiqué, oui. et aussi de Fars, au sud de le Firdaus al-Mushidi, le paradis de la maîtrise spirituelle, qui c'est la biographie d'Abu Ishaq Kazaluni. Kazaluni est intéressant parce qu'il était aussi associé avec les réseaux marchands, comme nous avons écouté dans la présentation de M. Vaillé. Abu Ishaq avait aussi fait sa bénédiction. Il avait béni les navires, les bateaux des marchands qui ont voyagé jusqu'en Chine. Mais tandis que l'importance de ce thème, je ne veux pas le traiter maintenant parce qu'il n'y a pas d'évidence qu'ils ont exporté le Ors par sa route maritime. Le Ors était exporté plus que dans une route terrestre jusqu'en le 16e siècle. Et dans ce livre, ce premier témoignage de l'ours, nous trouvons quelques courtes descriptions de l'ours, mais ils ont tous les éléments de l'ours qui étaient développés plus tard en Inde aussi. La notion de mort d'un soufi comme un mariage avec Dieu, le mot ours lui-même, La musique, les chansons d'amour, le grand rapin et bien sûr son propre espace, la tombe ou le mausolée. Et c'était pendant l'époque mongole qui, avec la conquête et la dévastation des grandes villes de l'Asie centrale, que l'ours était distribué dans deux axes de distribution vers l'ouest. On peut le voir ici avec l'affiche. Et enfin aussi au sud. Avec les conquêtes mongoles, ça a été créé une diaspora, on peut dire peut-être, une diaspora Khorasani, avec les Khorasani, les réfugiés qui se sont enfuis en Anatolie et aussi en Inde pendant le 3e, le 14e siècle. Nous avons quelques témoignages directs de ces routes de distribution. Les témoignages, ils sont dans les écrits des soufis lui-même qui se sont enfouis, dans ce cas à Kayseri, en Anatolie. Nous avons l'exemple de Najm al-Din al-Razi, qui, sa pays natal était Rey, en la Perse centrale, méridionale, mais nous avons, il a aussi vécu à Khwarazm, en Khorasan. Et après la conquête des Mongols, il s'est enfui à Kayseri, en Anatolie, et là-bas, il a écrit son livre, Misad al-Abad, c'est-à-dire Les chemins des esclaves de Dieu, qui aussi a quelques phrases qui décrivent le ours, ses chansons, sa musique, la fête, l'importance de son propre espace, la tombe. Et alors, déjà, on peut voir le mouvement de pas seulement le rituel, mais aussi son espace. Nous avons le plus célèbre exemple de les réfugiés Khorasani avec Jalaluddin Rumi, qui a voyagé avec sa famille de Varsh en Asie centrale et de Balkh jusqu'en la ville de Konya, la capitale de Sultanat Seljuk. C'est dans sa Masnavi, sa grand poème, nous trouvons beaucoup d'exemples du symbolisme de l'ours. Je veux citer un exemple, avant en perse et en persan et depuis en français. هل چون جلوه است ز آن زیبا عروس و این مقام آن خلوت آمد با عروس جلوه بیند شاه و غیر شاه نیز وقتی خلوت نیست جوش شاه عزیز جلوه کرده آم و خاصان را عروس خلوت اندار شاه باشد با عروس C'est-à-dire l'état mystique, c'est comme le dévoilement d'une belle mariée. L'état mystique, c'est quand le roi va toute seule avec la mariée. Sa dévoilement, le dévoilement de la mariée, sa dévoilement est vu par le roi et ses courtisans, mais personne n'avoue sa solitude sauf le roi. La mariée s'est dévoilée devant tous les courtisans, mais dans la chambre de mariage, la mariée est toute seule avec le roi. Et alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est plein du symbolisme de l'ours. Le ours est ici le mot arus pour la mariée, et le chat, le chat, le roi, cela veut dire le maître soufi, même le saint. Le arous, la mariée, c'est le symbole pour Allah. Et la chambre de mariage, dans ce sens rituel, c'est le mausolée qui est fêté comme la chambre de mariage et même le nid nuptial. Nous avons aussi dans la biographie de Rumi, le Manaqib al-Arifin, les grands gestes des connaisseurs de Dieu, de Aflaki, nous avons une description plus détaillée de la pratique du rituel de l'us dans le mausolée de Rumi lui-même à Konya. Et là aussi, nous voyons le mouvement, l'exportation d'une culture, d'un espace et d'un rituel. C'était aussi pendant la même époque, de les conquêtes mongoles, que nous trouvons le mouvement de l'Ous dans une direction au sud, jusqu'en Inde. C'était aussi avec les réfugiés de Khorasan qui se sont enfuis vers le sud, jusqu'au sultanat de Delhi, qui était conçu pendant ce temps-là comme le Kubat al-Islam, c'est-à-dire le dôme de l'islam qui protège la foi contre les mongols païens. Et depuis quelques années, une 50 ans après les conquêtes, les incursions des Mongols dans l'Inde du Nord, nous trouvons les premières sources en persan en Inde qui décrivent l'ours. Et nous pouvons voir qu'il y a une abondance des sources en persan de la 14e jusqu'au 19e siècle en Inde en persan et depuis en Urdu. Et cette source, c'est seulement un exemple ici, il y a plusieurs d'autres. Les sources prouvent que l'ours était soutenu par un public de plus en plus divers en Inde. Un public qui avait les marchandes, les femmes, les citoyens ordinaires, les yogis, les hindous et bien sûr les empereurs de l'Empire moghol. Et c'était Delhi, la capitale des sultanats de Delhi, après des empereurs mongols, qui a servi comme le centre de la distribution de l'ours à cause de son héritage, l'héritage de Delhi, son héritage Khorasani, associé avec l'ordre soufi des Chistiyas. Et Chist lui-même, le nom de l'autre soufi, Chist était une ville sacrée dans l'Afghanistan contemporain, c'est-à-dire en Khorasan. Et depuis le 14e siècle jusqu'à aujourd'hui, la tombe ici était l'espace pour la célébration, la fête de l'ours chaque année sur la date du décès du sang, les Ahmadine. Et c'était de Delhi que l'ours était distribué et exporté à l'est, à l'Inde orientale, suivant les routes terrestres vers l'est. C'était à Maner, par exemple, et le tombe ici de Sharafuddin Maneri. Nous avons quelques autres témoignages dans le texte persan, Khan Purinemat, c'est-à-dire la nappe bénite. Nous avons une autre description de l'ours qui était maintenant transporté avec son espace à l'est. Et c'était pendant l'époque moghale, nous trouvons que l'ours était soutenu aussi par les empereurs lui-même et aussi par les courtisans de l'Empire moghal. Et pendant ce temps-là, l'ours est devenu une grande fête, pas seulement pour les courtisans, mais aussi pour les citoyens normaux, hindous et musulmans de l'Inde, de l'Empire musulman en Inde. Même nous avons ici, c'est pas exactement l'ours, mais le pèlerinage d'Akbar à Ajmer. Nous pouvons voir Akbar devant le tombe de Muinuddin Chishti à Ajmer, ici en haut. Et c'est pas seulement, comme je dis, c'est pas seulement une question de l'exportation de l'ours, mais aussi l'exploitation de l'espace. Et l'espace était lui-même transformé par son voyage et transformé avec la pratique. Parce que la plus grande échelle de cet ours impérial, ou peut-être impérialisé, a demandé une nouvelle forme d'architecture. Et nous voyons ici le développement des nakarakhana, c'est-à-dire les salles des timbales, les salles des grands tambours, au-dessus des portes des mausolées de les saints, ici à Aurangabad, dans le sud de l'Inde. Et alors, l'espace lui-même était changé par sa voyage. Enfin, nous arrivons au bord de la mer, parce que c'était pendant l'époque des sultans de Gujarat, au Moyen-Âge, et pendant la première modernité, dans l'époque de l'Empire Mughal, que les mausolées étaient construits sur les côtes occidentales de l'Inde. Et c'était un développement très important, parce que il y avait aussi l'adoption de l'ours par un nouvel groupe ethnique. À la gauche, nous pouvons voir un texte du 18e siècle, le Marsan al-Aras, c'est-à-dire la trésorerie des mariages, la trésorerie de les ours, qui était un calendrier de l'ours des ordres arabes, des soufis arabes de l'ordre Haïdaroussi. Alors nous pouvons voir l'adoption de ce rituel et sa forme d'espace par les ordres arabes et les saints, les familles arabes sur les côtes de l'Inde occidentale. Ici à droite, nous voyons un exemple d'un espace ritualisé, un espace de le mausolée de les Sidi, c'est-à-dire les descendants des esclaves africains. Et là aussi, nous voyons dans les deux exemples l'adoption de l'ours par un nouvel groupe ethnique sur les côtes de l'Inde occidentale. Et c'était pendant le 16e siècle que l'ours était aussi exporté au sud, jusqu'à la côte Coromandel. Ici, nous avons le mausolée de Shah al-Hamid à Nagore. Et Shah al-Hamid lui-même, dans ses biographies, son hagiographie, il y avait des descriptions de ses voyages aux Seychelles, à Sri Lanka et aussi à la Mecque. Et ici, l'exemple de l'espace, ici, un espace tamil, est intéressant aussi pour la transformation de quelques conceptions du même le nom de l'ours. Parce que l'ours dans le sud de l'Inde, dans les pays tamils, est décrit pas comme avec le mot ours, le mot arabe, mais avec un mot qui semble d'être tamil, c'est-à-dire kandori. Et là, nous avons l'ours ici, c'est appelé kandori. Normalement, kandori, c'est conçu comme un mot tamil, mais j'ai fait quelques recherches étymologiques avec le lexique tamil de l'Université de Madras. Et ce lexique tamil dit que le mot kandori vient de l'ourdou. Et là, j'ai consulté quelques dictionnaires en ourdou et en persan, et j'ai réalisé que le mot kandori vient de persan. Le dictionnaire persan, le dictionnaire étymologique persan de Al-Akbar Dehoda cite une œuvre, un écrit de Assad Tusi du 11e siècle. Et c'est le titre du livre d'Assad Tusi, c'est le Lughati Farsi, c'est-à-dire un des premiers dictionnaires farsi pendant le 11e siècle. Et le sens de kandori, ici en persan, qui était adopté en ourdou, enfin en tamil, c'est une nappe. C'est-à-dire les nappes pour les grands repas qui étaient normalement pour les pèlerins ordinaires, les pèlerins des castes des hindous et des autres. La nappe, la grande fête, était l'aspect plus important de l'ours. Et alors nous avons ici un autre exemple d'une van de vote, c'est-à-dire un mot qui voyage avec des choses ou avec des pratiques. Parce que Assad Tusi et Salurati Forsi étaient aussi de Khorasan. Tous, bien sûr, c'était une ville en Khorasan. Et alors nous voyons ici quelques connexions du sud de l'Inde avec le Khorasan, avec ce van de vote, le kandori. Et Nagore, le mausolée à Nagore a servi comme le point de départ pour l'ours dans l'océan Indien. C'était avec les marchands Chulia et Marayakar et aussi les soldats qui ont suivi la compagnie britannique des Indes orientales. ils ont exporté le ours, le kandoli, et son propre espace jusqu'à Penang dès 1786 et jusqu'à Singapour dès 1824. Et j'utilise ici quelques images de Salmer Hu de Penang, je dois le remercier. Ici, nous avons une image du 19e siècle de la fête de Kandoori à le mausolée de Shah al-Hamid à Penang. Le terre pour le mausolée était donné en novembre 1801 par la compagnie britannique a été donné à un soldat, notre cher Jamadar, qui a construit le mausolée, au début en bois et depuis en pierre. Et nous pouvons voir la célébration de ce moment de la fête de Kandoori, la fête tamil de l'ours. Ici, nous pouvons voir aussi que l'espace lui-même était changé par son voyage maritime, parce qu'ici, au-dessus du mausolée, on peut voir un navire, ici, posé en haut du mausolée, et aussi, bien sûr, les drapes pour la célébration du Kandoori. Et alors, comme je dis, l'espace lui-même était changé par ce voyage. L'autre route de la distribution maritime de l'ours était vers Singapour pendant le 19e siècle. Et nous avons aussi le troisième mausolée de Shah al-Hamid. Mais ici, c'est intéressant parce que le mausolée ici à Singapour et l'autre mausolée à Penang n'ont pas une tombe. Et là, c'est une forme de mausolée paradoxique parce qu'il n'y avait pas une tombe du tout, mais ils étaient espaces seulement fondés pour la fête de l'ours. Et alors, le rituel, la pratique était la raison pour construire cette forme d'espace et pour exporter l'espace. Donc, nous voyons encore ce dynamique entre le rituel et son propre espace. La deuxième route maritime de l'exportation de l'ours était de Bombay à l'Afrique du Sud, à Durban. Bombay lui-même, pendant la deuxième moitié du 19e siècle, était un site de grande importance pour l'ours. Il y avait quelques exemples de l'ours qui avait plus que 1000 ou même 2000 pèlerins pendant le 19e siècle à Bombay. Et c'était de Bombay que l'ours était exporté avec les travailleurs sous contrat, c'est-à-dire les indentured workers, vers l'Afrique du Sud. C'était avec la venue du Sufi Sahib, un Sufi qui vient de la côte occidentale de l'Inde et qui avait passé quelques années à Bombay. C'était avec lui que l'ours était exporté de Bombay à Durban pendant les derniers ans du 19e siècle. Selon son biographie Urdu, Sufi Sahib a découvert quand il est arrivé à Durban, il a découvert la tombe oubliée d'un travailleur sous contrat, Bodshah Pir. Il a dit qu'il a réalisé que cet ouvrier inconnu était aussi un saint inconnu. Et le Sufi Sahib a fondé un petit mausolée. Ici, on peut voir une image quasi imaginaire de ce mausolée en bois qu'il a fondé en 1895. Et là, on peut voir encore une fois que l'ours était exporté avec son propre espace. Quand Sufi Sahib lui-même est mort en 1912, ses adeptes ont fondé une mausolée pour lui-même. Ici, on peut le voir au-dessus de les vagues de l'océan Indien à Durban. Et le modèle pour cet espace africain était le mausolée de Nizamuddin à Delhi. Si je reviens ici, on peut voir la claire ressemblance entre les deux mausolées. La grande tombe ici et la tombe ici, la tombe ici de Sufi Sahib. C'était modelé sur le dôme de son prédécesseur Nizamuddin Aulia à Delhi. Et encore, nous voyons l'exploitation de l'os avec sa rituelle, la création de l'espace. Rapidement, l'ours de Sufi Sab est devenu une grande fête pour les travailleurs sous contrat et puis par les marchands indiens à Durban. Nous avons ici une affiche de la célébration de l'ours de Sufi Sab en 1912. Et c'est intéressant aussi qu'un certain Mohandas Gandhi a travaillé comme l'avocat pour l'achète de la terre pour le mausolée. Et alors, qu'est-ce que nous avons ici? On peut dire que c'est un processus de culturalisme, d'un voyage d'une forme culturelle, avec l'exportation de pas seulement maintenant un espace et un rituel, mais aussi une langue et un texte. Parce que nous avons ici un des premiers exemples de l'usage de la littérature, et même la langue ourdou en Afrique, avec la biographie ourdou, alias Soufi, la biographie, l'agréographie de Soufi Sahib. Et ici, nous avons à votre gauche les chansons pour la célébration du Sandal Mali, c'est-à-dire le frotton du bois de Santal, sur la tombe de Soufi Sahib à Durban, la tombe conçue comme le lit nuptial du Soufi Sahib. Et alors, en conclusion, nous avons vu un rapport dynamique entre l'espace et sa pratique. Nous avons vu que l'espace était changé par le rituel et le rituel aussi était changé avec son espace et avec ses voyages. Nous avons vu aussi, je crois, le rôle des réseaux des ordres des tariqas soufis dans la distribution d'un islam particulier de l'Asie centrale jusqu'en Inde, Afrique et Asie du Sud-Est. Parce que j'espère que nous avons vu, que nous avons réalisé que le centre de distribution ou de même l'origine de cette rituel et cette forme de l'islam n'était pas la Mecque ni même l'Arabie, mais c'était l'Asie centrale. Et c'était... j'espère que j'ai montré que l'islam dans l'océan Indien n'est pas un monolithe, mais c'est un enjeu composé de plusieurs réseaux et mouvements et interactions. Ce que nous avons vu est semblable au processus décrit par Enseng Ho dans son livre « The Graves of Tarim », « Les tombes de Tarim ». Mais ce processus-ci n'a pas commencé à Tarim, quelques dizaines de kilomètres de la côte au Yémen, mais en Khorasan, au fond de l'Asie centrale. Néanmoins, pour conceptualiser cette dynamique entre l'espace et la pratique, comme M. Enseng Ho, nous pouvons utiliser les outils conceptuels de les acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire les shajaras, les arbres généalogiques. Parce que les shajaras, les arbres généalogiques des autres soufis, forment quatre généalogiques de l'espace pratiqué comme la mémoire par les rituels commémoratifs de l'ours. Alors ici, nous voyons quatre de mouvements qui ont relié les vastes zones de l'Asie centrale et l'océan Indien. Merci pour votre patience.